France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'amour selon Colette. Chapitre 5. Vieillir ensemble. En 1928, Colette fait paraître un livre dans lequel, comme bien souvent, il est question d'amour. Mais ce n'est pas de passion dont elle parle dans La naissance du jour. L'histoire est celle d'un jeune homme, Vial, qui s'attache à Colette dans une sorte d'autofiction avant l'heure qui, au passage, trouble beaucoup la critique. Mais Colette, quoique tentée par le jeune homme, décide de renoncer à lui. Autrement dit, elle dresse l'éloge de l'accomplissement personnel par le renoncement au plaisir. Pour être honnête, cela ne lui ressemble pas beaucoup. Annonçait-elle dans ce livre qu'elle avait renoncé à l'amour ? Pas forcément. Quelques mois plus tôt, en effet, elle rentrait de Saint-Tropez dans la voiture d'un certain Maurice Goudquette. Tous deux se connaissaient à peine, mais comme il n'y avait plus de couchette disponible dans le train bleu, il lui avait proposé de la ramener à Paris. Maurice est un courtier en perles fines, un homme peu bavard, dont on peut même dire qu'il est secret. Lors de ce long voyage, peu de paroles sont donc échangées, mais la traversée de la France est charmante et en arrivant à destination, tous les deux décident de se revoir. Lors de leur deuxième rendez-vous, ils parlent cette fois. Dans sa correspondance avec Marguerite Moreno, le nom du nouveau venu revient de plus en plus souvent. « J'ai eu une longue conversation avec ce garçon la nuit dernière », écrit-elle, par exemple, au détour d'une phrase. Et puis, 4 jours plus tard, « Je me couche tard, je cause avec notre ami Goudquette, de préférence la nuit ». Et 2 jours plus tard encore, « La nuit dernière, nous avons eu, Goudquette et moi, une de ces conversations qui commencent à 00h10 et finissent à 4h25 du matin ». Quelques jours plus tard, une étape semble franchie quand Colette écrit que « le garçon est exquis et qu'il a une peau de satin ».
L'amour, selon Colette, est une série de salles des archives proposées par Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation, Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Ce que je voudrais comprendre, Madame Colette, c'est pourquoi vous pensez que le fait pour Vinca de se donner à Philippe traduit parfaitement son amour. Est-ce que, en se refusant, elle ne grandissait pas, au contraire, son amour? Est-ce que ce n'est pas trop simple, au contraire, de se donner?
Vous savez, moi, je n'ai pas dans mon idée, même maintenant, qu'on puisse prouver son amour ou prouver un attachement quelconque, justement en refusant quelconque. En refusant un don quelconque, non. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de manières de prouver un amour, même pour cette petite fille qui a 15 ans. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fît d'autre que se donner?
Qu'elle se refusât, j'ai envie de vous répondre.
Oui? Alors vous trouvez qu'elle pouvait prouver son amour en se refusant? C'est là d'une morale un peu courte, je crois, que vous allez m'accuser, n'est-ce pas? Oui?
Non.
Je vois ça à votre figure, vous savez.
Corentin Azur-Lautruche, vous êtes docteur en littérature française, spécialiste de Colette, et vous faites paraître une nouvelle édition des romans Chéri et La fin de Chéri dans la collection Folio Classique des éditions Gallimard. Que vous inspire cette archive de 1950 sur, au fond, l'inutilité de se refuser à quelqu'un que l'on aime?
Je pense qu'il n'y aura pas de réponse tranchée et nette ou définitive. Je pense au contraire que Colette envisage l'amour, les amours, comme une sorte de sentiment pluriel et complexe, et que les romans vont être là justement pour nous montrer des situations où l'amour va pousser au maximum, va pousser jusqu'à l'impossibilité justement de ne pas céder ou de céder, selon la force du sentiment et selon la personne qu'il y a en face.
En tous les cas, avec la relation avec Maurice Goudquette qui nous intéresse pour cet épisode, on peut dire qu'elle ne s'est pas refusée.
Elle ne s'est pas refusée, en effet. Lorsqu'elle le rencontre en février 1925, elle est à un moment charnière de sa vie. Elle finit une passion avec Bertrand de Jouvenel, son beau-fils. Et elle sent bien qu'il y a là une nouvelle saison de l'existence qui se dessine, qui est une saison bien évidemment chronologique, marquée par le mi-temps de la vie. Elle est vers la cinquantaine.
Elle souffre d'être arrivée à cet âge-là?
Non pas qu'elle souffre, mais je pense qu'elle le voit vraiment comme un tournant. C'est-à-dire que sa littérature, son œuvre n'a cessé de marquer des jalons, elle n'a cessé d'avancer en produisant des livres, et donc bien évidemment, lorsqu'elle finit Le blé en herbe en 1923, qu'elle termine cette espèce de passion amoureuse entre un jeune homme et une femme plus âgée, qu'elle-même elle l'a vécu dans la vie, et bien elle en vient à ce stade de, effectivement, 1925, les choses sont arrivées à une impasse avec Bertrand de Jouvenel. Et Maurice Goudequet entre en scène à ce moment-là, il entre en scène comme une sorte de double de jeune homme. Il est plus jeune, mais quand même un peu plus âgé. 16 ans de moins, mais quand même un peu plus âgé que Bertrand de Jouvenel. Il a des ambitions littéraires, quelques velléités de publier son œuvre, et ils se rencontrent, et véritablement, c'est l'admiration du jeune écrivain ou du jeune littérateur pour la grande écrivaine qu'elle est devenue.
Cette question de l'âge dans les relations de Colette, où elle va être alternativement avec des personnes bien plus âgées qu'elle, Willy bien plus jeune qu'elle, Bertrand, est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a pas selon vous ?
Je pense que ça a un sens. La relation avec Goudequet, par exemple, ou avec Bertrand de Jouvenel, peut se lire à l'aune de ce qu'elle dit dans une lettre à Maurice Goudequet dans les années 30. Celui-ci lui reprochant d'avoir hébergé Joseph Kessel chez elle. Et visiblement, il s'énerve dans une lettre et elle répond en disant que sa sensualité va de une sorte de souci de l'autre, du care, on dirait aujourd'hui, prendre soin de l'autre, le maintenir dans un état de solidité morale, physique. Et donc, véritablement, je pense que l'âge compte, puisque en réalité, quand elle est avec Maurice Goudequet, elle s'entiche d'un homme un peu plus jeune, mais qu'elle va un peu accompagner, qu'elle va considérer comme étant une sorte de grand camarade. Et elle va, je pense, à la fois aussi le lancer dans certaines entreprises littéraires, ou bien évidemment celle des cosmétiques en 1932.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut qualifier cette relation ? Vous avez parlé d'un grand camarade, on peut pouvoir aussi parler d'amour. Quel mot vous mettriez ?
Alors, je mettrais d'abord l'amour, un amour charnel et un amour véritablement pur. Lorsque on lit la correspondance de Colette avec Marguerite Moreno, quand on lit aussi la correspondance avec Maurice Goudequet, qui est encore inédite, on se rend compte que véritablement le mot amour imprègne chaque lettre et il y a véritablement un amour sensuel indéniable. Mais petit à petit, de cette relation qui va être en fin de compte la plus longue de Colette, puisqu'il va y avoir quasiment une trentaine d'années, on va se rendre compte qu'elle va muter ou se transformer en une sorte d'assaise ou d'entente sentimentale et visiblement amicale. Colette vieillissant, Maurice Goudequet a des aventures autres, mais il ne cesse, à partir du moment où la vieillesse va entrer en ligne de compte, il ne cesse de l'accompagner.
Nous sommes allés voir dans la salle des archives si l'on pouvait retrouver la voix de Maurice Goudequet. Il apparaît en effet dans une émission de 1972. C'est bien entendu un homme qui a beaucoup changé depuis sa rencontre à 36 ans avec l'écrivaine. La productrice, Ginette Guittard, l'interrogeait sur un moment de la vie de Colette, quand celle-ci avait ouvert un salon de beauté qui avait été un échec sur le plan financier.
Il y a eu dans la vie de Colette un fait qui est assez mal connu finalement et qui a quelquefois été mal compris, c'est qu'à un moment donné, elle s'est lancée dans une entreprise de produits de beauté, de maquillage. Et j'aimerais que vous me parliez de cette chose, parce que je crois qu'il y avait une raison profonde chez Colette pour qu'elle s'engage dans cette aventure.
Il y avait surtout un moment de fatigue de son métier d'écrire qu'en somme, elle exerçait depuis plus de 35 ans. Et puis, toujours l'illusion qu'elle était faite pour un travail manuel. Elle a été toujours un artisan, même dans les lettres, elle se considérait comme un artisan. Et elle voulait travailler de ses mains. Et elle voulait travailler sur les visages humains qui l'ont toujours passionnée. Et puis, voilà, c'était pour elle le moment de s'arrêter pour... être en contact plus direct avec des êtres humains. Elle avait peur de devenir une sorte d'idole, n'est-ce pas, d'être isolée de l'humanité. Elle avait besoin de les toucher. Seulement, elle s'est vite aperçue que c'était une illusion, parce que les clientes qui se faisaient soigner par elle à la fin de ses soins, tirait de sa poche un livre, demandait une dédicace, etc. On ne se débarrasse pas d'un tel métier comme ça. Et puis, elle était faite pour écrire, qu'elle le voulût ou non. Elle a toujours dit que je ne veux pas. Et finalement, cela a adhéré à elle. Et quand, vers la fin de sa vie, il n'avait vraiment plus besoin d'écrire, elle appelait Pauline. « Pauline, Pauline, donnez-moi du papier, il faut que j'écrive. »« Mais pourquoi, madame ?»« Parce que c'est mon métier, Pauline. »
Vous connaissiez cette voix de Maurice Goudkett, Corentin sur l'autruche ?
Pas du tout, je la découvre avec cette archive et je dois dire que c'est assez saisissant parce que on voit bien là le récit qu'il construit d'une Colette qui aurait été un peu fatiguée par son métier, qui entreprendrait ce commerce de produits de beauté pour revenir en suivant à la littérature. Il me semble au contraire qu'il faut voir là une continuité. Colette dira du visage humain, c'est le plus grand paysage, c'est-à-dire ce paysage qu'elle a toujours peint. Et il me semble qu'elle va faire les deux de pair et de manière conjointe et non pas céder à la tentation du produit de beauté pour ensuite revenir à l'œuvre. En tout cas, cette voix est tout à fait singulière et je pense qu'il faudra retenir aussi cette espèce de contamination de la voix de Colette où là, à la fin, on entend
le ton,
cette espèce de volonté de mimer un peu l'accent de Colette. « Pauline, apportez-moi du papier !» Bon, il s'avère que évidemment Colette aura passé sa vie entière à écrire.
Est-ce que Maurice Goudkett, c'est l'homme qui lui permet aussi de faire ce qu'elle a envie de faire, de monter ce salon qui va l'aider, l'accompagner, la soutenir dans finalement toutes ces entreprises plurielles ?
Alors je pense qu'il va effectivement engendrer un certain nombre d'expériences diverses, le produit de commerce de beauté, des éditions semi-luxe, l'édition des œuvres complètes qui en fait sont véritablement le résultat du travail de Maurice Goudkett, mais je pense que ça va davantage dans ce sens-là, de lui qui va quand même se saisir un peu de l'œuvre de Colette à mesure qu'elle vieillit et va y chercher à en tirer quelques profits. C'est un ménage qui a constamment besoin d'argent et donc il va à ce titre-là aussi, je pense, profiter, ou pas en termes forcément très négatifs, mais du moins accompagner Colette dans certaines éditions.
Donc on peut parler vraiment d'un soutien et on le sent un petit peu dans son ton de voix, qui est un ton de voix d'une certaine douceur, d'un certain apaisement, peut-être après les passions que Colette a connues et notamment les passions amoureuses.
Peut-être le grain de voix de Maurice Goudkett nous donne-t-il un peu le ton de cette relation, c'est-à-dire une relation plutôt calme, plutôt sereine et plutôt apaisante.
Plus les années vont passer et plus Colette va imaginer une vie au long cours avec Maurice Goudkett. Il n'empêche que leur différence d'âge les conduit à imaginer ce que l'on appellerait aujourd'hui un couple libre qui laisse Maurice plus jeune vagabonder auprès d'autres femmes. Cette manière d'envisager le couple et les relations amoureuses est présente dans les livres de Colette, comme le remarque André Parinaud dans une archive de 1950.
Presque tous vos héros sont des païens.
Sont des ?
Des païens, au sens noble du terme, mais des païens.
Ah, bon.
Mais si vous refusez le terme...
Oh non, non. Non, non, je ne refuse pas le terme. Je le trouve un petit peu à la fois insuffisant et aventuré. Pourquoi païen ? Quoi ?
Parce que
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ce sont des êtres, dans le fond, très simples, et qui ne rattachent pas leurs sentiments et leurs attitudes à des idées ou à des sentiments que certains appellent supérieurs, par exemple. S'ils ont envie de tromper leur femme, ils trompent leur femme. Et dans le cas général, si la femme aime son mari, eh bien elle laisse passer. C'est une sorte de liberté des instincts et de rattachement à l'instinct et aux choses naturelles qui me fait risquer le mot de païen.
Citation. Il y a dans je ne sais pas lequel de mes livres un endroit où je dis si mon maître le hasard l'avait voulu autrement, il me semble que j'aurais fait une excellente catholique. Ah, c'est bien fait. Méfiez-vous, il y a un mot qui vous guette là. Un mot qui vous guette, et moi je trouve que nous ferons bien de passer à côté, c'est le mot monogamie. Méfiez-vous. Il vous attend là, au tournant de la page. Et j'en veux pas.
Corentin sur l'autruche, votre réaction à cette archive?
Une archive que je trouve extrêmement drôle. On ne se lasse pas de voir comment Colette mène en bateau André Parrino, qui visiblement ne cherche qu'une chose, c'est attirer Colette sur le terrain sur lequel elle ne veut pas aller. Le mot païen qu'il sort, bien évidemment, Colette le rejette d'un bloc, puisque bien évidemment, il cherche une fois de plus à l'enfermer, à classifier, à étiqueter ce qui au fond ne l'est pas tellement. Le rapport de ces héroïnes, évidemment, à l'amour, ne peut absolument pas être, je pense, taxé ni de païenne ni de monogamie, ce qu'elle va faire après, évidemment, à la fin de l'interview. Je pense également que dans cet échange entre le journaliste et l'écrivaine, on voit bien aussi cette tentation toujours pour Colette de battre un peu en brèche et d'être toujours là où on ne l'attend pas tellement, c'est-à-dire sur le terrain des aveux. C'est une écrivaine qui rejette un peu cette posture-là, surtout dans les entretiens avec André Parrino, qui porte beaucoup sur la période de Willy et sur la période des Claudine.
Parce qu'elle a maîtrisé son image ou parce qu'elle est pudique tout simplement ?
Je pense que ça vient aussi d'une tentative et d'une tentation de contrôle, puisque le public cherche ou se repère un peu de toutes ces histoires-là. Par un savant détour, elle arrive à véritablement remettre tout le monde sur le chemin de l'écriture et de la fiction. C'est-à-dire, ne cherchons pas à identifier forcément une cause réelle ou un événement réel pour expliquer ses livres, mais cherchons plutôt à les lire.
Et puis, il ne faut pas oublier que même si elle est âgée, en 1950, quand elle donne ces entretiens-là, elle a vraiment une jeunesse où elle a été un petit peu jetée en pâture à la presse, tout en ayant cherché, évidemment, une certaine notoriété, mais donc les intervieweurs vont la chercher un petit peu sur ce terrain-là et cherchent toujours à appuyer là où potentiellement ça peut faire mal, parce qu'elle souhaite avoir, et c'est légitime, une image différente.
Exactement. Et il y a toujours, je pense, cette espèce de décalage ou de contrepoids entre l'intervieweur qui va chercher à poser les questions qu'il ne faut pas et Colette qui ne cède jamais.
C'est à ce moment-là aussi, quand elle est avec Maurice Goudquette, qu'elle publie, on est en 1932, le livre qu'elle va intituler « Ses plaisirs » et qui sera republié plus tard sous le titre « Le pur et l'impur ». C'est un livre qui parle très ouvertement de la sexualité, Corentin Zurlotruche.
Oui, tout à fait. « Ses plaisirs » est un livre qui parle des différentes formes de plaisir et des différentes formes d'amour. C'est un livre très complexe et très savant où Colette va petit à petit tisser des anecdotes, des portraits et des réflexions qui seront presque philosophiques, si vous voulez, sur le rapport charnel que les êtres entretiennent avec eux. Le pur et l'impur est un titre qu'elle lui préfère en 1941 à ses plaisirs, puisque pour elle, il va classifier un peu en une forme de binarité les relations qui seront du côté du pur ou qui seront du côté de l'impur. Mais le pied de nez que Colette jette à ses lecteurs, c'est bien entendu de ne jamais choisir ou l'un ou l'autre, puisque le livre se termine, si je peux divulgâcher la fin, sur une absence de définition précise de ce qu'est le pur ou de ce qu'est l'impur.
Et pourquoi l'écrit-elle, selon vous? Est-ce que c'est pour avoir, comme on dirait aujourd'hui, pour changer le monde, pour avoir un impact sur le monde? Est-ce que c'est simplement parce que elle prend du plaisir à écrire sur ce thème-là? Comment vous voyez les choses?
Je pense qu'à partir de la naissance du jour en 1928, elle est dans une saison de son écriture qui se veut davantage complexe, qui se veut davantage réflexive. Sa lecture de Proust l'a quand même amenée véritablement à repenser un peu son mode d'écriture. Vous l'avez dit, la naissance du jour a désarçonné beaucoup les critiques, mais c'est parce qu'en fait c'est un livre éminemment réflexif où Colette réfléchit elle-même à l'instant T dans le livre qu'on est en train de lire. Au pouvoir de la littérature. Ces pouvoirs-là, il me semble qu'ils sont aussi d'une autre nature. Ils sont capables de réfléchir au corps, au sens, qui est quand même le grand domaine dans lequel Colette excelle en littérature. Et donc, en 1932, il est question pour elle de faire cette espèce de livre qu'elle rêve depuis un petit moment sur le plaisir, où elle va véritablement égrener, au fur et à mesure, toutes les sortes de plaisirs qu'elle a pu rencontrer.
La liberté dans le couple n'exclut pas l'amour, pense Colette, au contraire. En 1935, 10 ans après leur rencontre, Maurice et elle passent devant le maire. Ils s'accompagneront jusqu'à la mort de l'écrivaine en 1954. S'il en fallait une preuve, l'amour de Colette pour son mari se révèle durant la Seconde Guerre mondiale. Juif, il est arrêté le 12 décembre 1941 et envoyé au camp de Compiègne. Dans le froid, presque sans manger, il vit dans l'angoisse d'un dénouement tragique. Heureusement, Colette se démène, non seulement pour lui envoyer des colis, mais surtout pour le faire libérer. Elle frappe à toutes les portes, les pures comme les impures d'ailleurs, c'est-à-dire les portes allemandes, et parvient à le sauver de la déportation. Le 6 février 1942, elle retrouve Maurice. « Il n'est pas joli joli », écrit-elle à sa fille, « mais il est là ». Est-ce qu'on peut parler d'un amour assagi à la suite de cela, d'un amour tranquille ?
D'un amour sans doute tranquille. C'est sans doute également aussi une période où Maurice Goudequet, après la guerre, va vouloir panthéoniser en quelque sorte l'œuvre de Colette et va avoir en 1948 l'idée de lancer l'édition de ses œuvres complètes en 15 tomes dans une maison d'édition associée à Flammarion qui s'appelle Le Fleuron. Donc une période tranquille peut-être dans leur relation entre eux. Et en revanche, une période d'intense activité littéraire, puisque Maurice Goudequet va véritablement orchestrer l'ensemble de la publication.
Colette entre dans la dernière partie de sa vie. Elle le sent dans son rapport nouveau à la relation amoureuse, mais aussi, tristement, par la dégradation de sa santé. C'est l'arthrite qui l'a fait souffrir et qui l'a fait vieillir aussi. C'est sa jeunesse qui est loin. Et puis c'est la jeune génération qui ne la voit plus comme un objet de vénération, mais plutôt comme une grand-mère qu'il faut à présent ménager. Archives, 1948.
Je n'ai guère gardé autour de moi qu'un très petit solde de jeune fille. J'en aurais davantage si je les laissais approcher, mais je les redoute. Il est tout naturel que les forces neuves effraient les forces déclinantes. Mes jeunes filles, comme je dis, je ne les attire pas. Je ne les chasse pas tout à fait. Elles doivent trouver que je manque de conversation, parce qu'avec elles, j'en manque en effet, et qu'il ne me reste du plus épuisant de tous les plaisirs qu'un prurit d'interrogation. Tête à tête avec celles qui sont déjà pourvues d'une profession, je finis toujours par tirer d'elles ce que j'aime le mieux, c'est-à-dire un peu du roman de leur métier. D'autant qu'elles passent aux aveux sans avoir l'air de se douter à quel point elles sont émouvantes. Leur pathétique, elles l'enferment dans ce que notre langage contient de plus banal, dans des explétifs, dans des chiffres affreusement précis et froidement énoncés. Cependant, qu'entre elles et moi s'étend et s'aggrave un espace que la familiarité s'aventurerait en vain à combler, ni d'ailleurs une bienveillance à laquelle elles ne croient guère, ma bienveillance. La curiosité qu'elles jugent légitime, car l'infatuation ne leur fait pas défaut, me sert mieux, et aussi cette divination malicieuse à laquelle je recours par jeu seulement, et sans aucun esprit de conquête. J'ai besoin de me répéter qu'en dépit de l'âge, tous mes divertissements ne sont pas forcément criminels.
C'est assez touchant, cette confrontation de la Colette âgée avec la toute jeune génération.
Tout à fait. Tous mes divertissements, dit-elle, il y a fort à parier que bien évidemment le contact avec les jeunes gens sont une forme de divertissement et peut-être même une forme de ressource ou d'élan un peu vital.
Comment vous comprenez cette phrase quand elle dit qu'elle parle aux jeunes filles sans esprit de conquête dans l'archive ? Qu'est-ce que ça signifie ? Conquérir comment ?
Je pense que le mot peut-être conquête fait masque ici la rivalité. C'est-à-dire que Colette sent bien à cette saison-là de sa vie que tout est joué pour elle, c'est-à-dire à la fois sa place qui est au firmament de la littérature et qu'en même temps, les jeunes gens qui l'abordent ont tous cette espèce de distance avec l'idole. Je pense que c'est aussi une manière pour elle de signifier qu'elle peut être encore accessible pour qui veut bien se prêter au jeu de la confrontation avec Colette. C'est-à-dire cette espèce de distance un peu froide avec l'idole et en même temps de rapprochement, de chaleur, de contact. Colette était véritablement une écrivaine qui était dans le contact physique. Les lettres le prouvent, les interviews et même les comptes rendus de visite.
Comme toujours avec la Colette des dernières années, les observations qu'elle fait au présent la ramènent vers ses souvenirs de jeunesse. Et c'est là qu'on mesure la distance parcourue par cette femme qui a été, à 15 ans, une jeune fille assez prude, en tous les cas si l'on en croit cette histoire qu'elle raconte en archives.
C'est une juive oranaise qui avait épousé un camarade de promotion de mon père qui m'enseigna quelques bonnes manières de harem. À Paris, elle m'invita 3 semaines et j'aimais promptement le couscous, les hautes côtelettes cuites dans l'huile et les grasses pâtisseries algériennes. Pourtant, je n'osais pas solliciter de Sido, ma mère, un second séjour chez la dame oranaise, ni raconter à ma mère qu'un matin à Paris, j'avais surpris Madame la Générale, occupée à diriger dans le travail ménager, une ancienne ordonnance du général X, passé valet de chambre. En tablier bleu, juché sur une échelle double, le solide garçon essuyait les vitres d'une imposte et recevait les conseils de Madame la Générale, qui était debout en bas de l'échelle et qui lui disait « Bougre de saucisse, je vois d'ici le traînée de buée que tu laisses sur la vitre. Tu as besoin d'un encouragement? Attends, je vais te le donner. » Et gaillardement, elle lui empoigna la fesse d'une prise si ferme qu'il en hennit de rire comme un cheval. Alors je m'en allai, je m'enfuis en larmes dans ma chambre. Car j'avais l'âge qui refuse aux personnes mûres le droit à l'amour, n'importe quel geste de l'amour, et qui surtout réprouve la jovialité de l'amour, encore plus que le geste de Madame la Générale. C'est le rire de l'homme qui me refoula vers la chambre d'où je sortais, parce que 15 ans, n'est-ce pas, le bel âge pour frémir de scandale devant la salacité allègre des aînés. À 15 ans, voyons, on pleure d'amour. On ne rigole pas en se faisant passer les fesses.
Je pense qu'il y a dans cette archive quand même beaucoup de recoupements de tout Colette. Alors déjà, on commencera par voir la sensualité avec laquelle elle évoque en tout début la nourriture, cette espèce de plaisir des sens, pour petit à petit glisser vers ce plaisir de l'anecdote. Et il y a chez Colette, à mesure que l'on avance dans l'œuvre, un plaisir de l'anecdote. Celle-ci est quand même savoureuse et quand même relativement drôle. Et on voit bien... Également, me semble-t-il, avec cette histoire de jeune fille un peu comme ça, surprise par ce qu'elle voit, un peu choquée, un peu heurtée, l'espèce de code, un peu de conduite que Colette, mine de rien, aura parcouru dans l'ensemble de son œuvre.
Mais est-ce qu'elle ne fait pas le trajet, justement, depuis la pudeur de ses 15 ans, qui est peut-être la pudeur de toutes les jeunes filles de 15 ans qui sont romantiques, a priori, vers autre chose, c'est-à-dire une découverte de ce qu'est l'amour. Et au fond, à la fin de sa vie, elle comprend sans doute mieux cette dame oranaise.
Oui, bien sûr, il y a ce trajet-là aussi, effectivement, de la pudeur à une sorte d'intelligence, d'intuition du contact charnel et du contact amoureux.
Est-ce que vous diriez qu'elle croyait à l'amour ?
Oui, je pense qu'elle y croyait. De manière assez ironique, elle dira dans l'Étoile Vespère, amour peint auquel elle sera toujours venue se nourrir. Mais je crois profondément qu'elle était effectivement assez convaincue par l'amour.
Il n'est vendange que d'automne, peut-être qu'en amour aussi. Quelle saison pour le dévouement sensuel, quelle trêve dans la suite monotone des luttes d'égal à égal, quelle halte sur un sommet où se baissent 2 versants. Il n'est vendange que d'automne.
Ce dernier amour de Colette pour Maurice Goutquet est aussi celui qui aura duré le plus de temps, 29 années en tout. Mais c'est cet homme qui s'occupera d'elle quand, glorifiée de toutes parts mais percluse de douleur, elle peinera à sortir de son appartement du Palais Royal. Il reste encore un amour de Colette dont nous n'avons pas parlé, et ce n'est pas le moins étonnant d'entre eux, comme nous allons le voir au cours du prochain et dernier épisode.